Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il y a des émissions qui ne sont pas tout à fait comme les autres. Ce matin, en effet, nous allons prendre de la hauteur. Rien de bien étonnant, me direz-vous, quand on rencontre régulièrement dans cette émission des hommes et des femmes qui ont choisi de tout quitter pour vivre dans le silence et la prière. Mais mon invité de ce matin, lui, a pris de la hauteur au sens propre, 400 km au-dessus de nos têtes tout de même. J'ai nommé Philippe Perrin, 9e Français à être allé dans l'espace. Philippe Perrin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc pilote d'essai chez Airbus, décidément, et le 9e astronaute donc, français à être allé dans l'espace, donc de l'Agence spatiale française. On va avoir donc cette émission pour faire connaissance avec vous. Et il y a bien des choses à dire, ça va être difficile, vous allez certainement ressortir frustré les auditeurs aussi. Mais je me suis dit en préparant l'émission, c'est vrai que ça fait quelque chose et vous devez probablement porter un peu ce que vous symbolisez de rencontrer l'homme qui est allé dans l'espace. Ça sera peut-être ma première question avant qu'on déroule votre vie. Est-ce que parfois vous n'avez pas l'impression que quelque part vous représentez quelque chose de plus grand que vous-même ?
C'est possible, mais je l'ai évité. C'est-à-dire que depuis que je suis rentré de l'espace, j'ai plutôt caché mon vol. Mais ça, c'est une démarche tout à fait personnelle. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu dans les médias. C'est un choix que j'ai fait, délibéré.
C'est vrai qu'on ne trouve pas beaucoup d'interviews. Oui.
Et c'est un choix qui me permettait, moi, de retrouver les gens. C'est-à-dire que je ne voulais pas, dans mon rapport quotidien avec les gens que je découvrais, avec mes amis, être l'astronaute. J'ai voulu être tout sauf l'astronaute, dans mes relations humaines. On me le reproche parfois d'ailleurs.
Alors, si on part à la découverte de Philippe Perrin, donc il y aurait beaucoup de choses à dire. La première chose, c'est donc vous êtes père de famille, vous avez des enfants, vous avez trois enfants, et donc vous avez surtout été un pilote émérite avant d'être choisi pour aller dans l'espace. J'aimerais avant ça que vous nous parliez d'une anecdote parmi les rares interviews que vous avez données, en tout cas celle que j'ai trouvée. C'est une interview, je crois, au journal Le Monde. Vous racontez que quand vous étiez enfant, il vous arrivait de regarder le ciel. Vous avez déclaré la chose suivante: chaque fois que j'admirais le ciel, j'avais le sentiment que la vérité était là. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être ces souvenirs d'enfance?
C'est un souvenir très personnel, c'est le souvenir des vacances d'été passées avec mes parents, souvent au Maroc, dont je suis originaire, et enfin je suis né à Meknès. Et donc les soirées chaudes d'été, on s'allongeait sur le sable et on regardait le ciel. Et j'avais à l'époque le sentiment, mais je l'ai toujours je crois, qu'il y avait une espèce de grande vérité qui se dégageait à regarder l'infinité du cosmos. Il faut quand même se souvenir que ça a été le seul spectacle qu'a eu l'humanité pendant des centaines de milliers d'années. Et je me posais naturellement la question qui était de savoir si j'avais la chance peut-être de quitter la Terre et de voir la Terre d'en haut, si j'aurais pas accès à une autre vérité. Et ça a été ma démarche, c'est-à-dire qu'au départ, être astronaute pour moi, c'est prendre de la hauteur, vous l'avez dit, de la hauteur physique, mais peut-être de la hauteur d'esprit, une position de la pensée très particulière, avec cette certitude qu'en prenant cette hauteur, j'aurai des réponses à des questions.
Alors on y reviendra au fil de l'émission. Vous êtes donc diplômé de l'école polytechnique, c'était en 1982. Vous rejoignez l'armée de l'air en 1985 et puis après vous enchaînez, on va dire, brillamment une carrière de pilote. Vous sortez premier de votre promotion en 86. Qu'est-ce que vous diriez si vous deviez dérouler un peu, pour des gens qui ne sont pas forcément familiers de ce monde-là, les grandes étapes avant d'arriver à cette proposition du CNES?
Je dirais que je suis le fruit d'une école qui a été l'école de l'armée de l'air. Je dis souvent que je dois tout à l'armée de l'air. C'est elle qui m'a apporté d'abord des valeurs, avant toute chose. Avant même de m'apprendre à piloter, elle m'a apporté des valeurs. Des valeurs républicaines, l'armée de l'air c'est une grande famille républicaine. Des valeurs d'amitié, de respect, d'honnêteté. Et des choses qui me paraissaient naturelles, puisque c'était les valeurs dans lesquelles j'avais été élevé. Et je l'ai retrouvé naturellement dans un milieu professionnel et ça m'allait tout à fait. Et puis j'ai appris à voler et c'est vrai que c'est une école d'excellence du pilotage. Donc finalement, je ne l'ai peut-être pas assez dit à l'armée de l'air, aux anciens et aux nouveaux de cette belle armée, mais je dois tout à ces années de pilotage militaire.
Vous avez l'habitude de dire que vous avez volé sur tout type d'avions, c'est-à-dire civils, militaires. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être un petit peu quels ont été ces différents vols et différentes missions ?
Alors oui, voler, c'est ma vie. J'ai commencé en aéroclub avec le brevet d'initiation aéronautique, qui je crois existe toujours pour les jeunes, qui permet de financer une partie des vols. Et j'ai commencé donc en aéroclub à 14 ans, dès que je pouvais. J'ai poursuivi sur du pilotage militaire, du pilotage d'essai, j'ai piloté l'avion 0G, aujourd'hui je suis pilote d'essai chez Airbus. Et si j'essaye de comprendre pourquoi j'ai fait tout ça et pourquoi je suis toujours resté dans le pilotage et pourquoi je suis revenu au pilotage d'ailleurs après mon séjour dans l'espace, je crois que c'est parce que ce qui est important, c'est pas ce qu'on fait, c'est avec qui on le fait. Et j'ai trouvé dans le milieu des pilotes vraiment une fraternité, encore une fois, un sens de la vérité, un sens de l'absolu. J'ai toujours eu soif d'absolu.
Un goût de l'aventure aussi, vous en parlez de temps en temps.
Un goût de l'aventure. Et peut-être aussi une défiance de la mort. C'est-à-dire, quand on fait des métiers dangereux, on vit plus pleinement, puisqu'on se rit de la mort. C'était le cas quand j'étais pilote de chasse, je m'en souviens très bien. Et tout ça donne du sens à la vie, quelque part. Et la fraternité, moi, m'allait bien.
Alors, en 1996, le CNES annonce votre sélection comme astronaute et vous rejoignez donc la NASA pour un entraînement à Houston, donc de 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce passage à la NASA ? Alors, c'est bien court pour expliquer tout ce que vous avez vécu là-bas, mais pourquoi faut-il 2 ans d'entraînement et un retrait ?
Il faut pas 2 ans. En fait, c'est 2 ans d'entraînement, mais il a fallu 6 ans. Les Américains, en fait, vous entraînent. 1 an pour apprendre la navette, 1 an pour apprendre la station. Mais les Américains ne vous feront pas voler dans l'espace, ils n'ont pas la certitude que vous êtes le bon numéro. Et pour ça, ils vous mettent en observation. Donc vous passez du temps alors à travailler pour les gens qui sont eux-mêmes dans l'espace. Et on vous regarde évoluer d'un point de vue professionnel et aussi d'un point de vue familial. Vous savez, les vies en famille constituées, comme on voit dans les films,
vous êtes sous les barbecues,
tout
c'est...
ça. On rentre dans une grande famille. On est coopté. Et d'ailleurs, en fait, pour ce vol, j'ai été coopté. Quand je suis parti, j'avais la certitude d'avoir un entraînement. Le CNES m'avait appelé un soir. Je me souviens très bien du coup de téléphone. On a un entraînement pour vous à Houston. Vous partez dans 2 mois, vous acceptez ou pas. Mais à l'issue, il n'y a pas de vol. Et finalement, le vol, c'est, avec un peu de prétention, c'est moi qui l'ai eu parce que j'ai réussi à faire la démonstration aux Américains que j'étais capable, peut-être, de faire certaines choses.
Qu'est-ce qui vérifie en fait des aptitudes, on imagine, intellectuelles,
dans
techniques,
mon
physiques
cas, c'était la sortie extravéhiculaire. Moi, ce qui m'a finalement permis de voler dans l'espace, c'était une aptitude, alors du fait de ma taille, à plier le scaphandre de sortie extravéhiculaire, c'était une aptitude à sortir dans l'espace, parce que comme pilote, ben, j'avais cette notion du déplacement en 3 dimensions. J'ai été aussi plongeur, je suis instructeur de plongée sous-marine. Donc j'avais cette capacité à évoluer en 3 dimensions. Et je crois que ce qui leur a plu, c'était ma performance en sortie extravéhiculaire.
Donc vous avez passé, si je ne me trompe pas, vous me corrigerez, donc 14 jours dans l'espace, donc dans la station internationale. Vous avez effectué 3 sorties extravéhiculaires. Je crois que c'est un peu plus de 9 minutes, c'est ça ?
Alors donc, la sortie extravéhiculaire va durer près d'une journée. Donc en tout, j'ai 20 heures de sortie dans l'espace.
D'accord.
Je crois que c'est aujourd'hui le record absolu français, mais pas européen. Jamais la NASA n'avait donné, mais depuis les missions Apollo, de sortie extravéhiculaire à un premier vol, et sûrement pas à un étranger. Et pour moi, ça a été une reconnaissance absolue et une fierté absolue de me présenter comme français et de me voir remettre cet insigne honneur de sortir 3 fois dans l'espace. En fait, au départ, on avait 2 sorties prévues, et puis le bras robotique est tombé en panne de la station, et il a fallu faire une espèce de sortie de la dernière minute pour réparer le bras et continuer l'assemblage de la station.
On va faire un peu de teasing, parce que on propose qu'on en parlera après la première pause, ce qui, pour une fois comme ça, tout le monde restera au moins jusqu'à la moitié de l'émission. Je vois le temps qui passe et j'aimerais, avant qu'on fasse cette première pause, que vous nous parliez un petit peu de ce que vous faites maintenant chez Airbus. Donc vous êtes pilote d'essai, comme vous l'avez dit, entre autres donc pour l'avion 0G.
Alors 0G c'était avant,
ah bon.
C'était Novespace, c'est une petite société indépendante qui est à Bordeaux. Non, alors chez Airbus, ben, je fais des essais en vol, donc je travaille pour l'industrie. Ça a été un choix, alors après l'espace j'aurais pu revoler, et pour des tas de raisons, si on a le temps pour en parler, j'ai décidé de ne pas revoler dans l'espace, J'ai décidé de quitter la NASA de façon volontaire. C'est un peu étrange, mais ça a été un choix.
Alors, moi, j'avais quand même une question pour Airbus. C'est, je ne sais pas si vous avez le droit d'en parler, mais vous laissez entendre, je crois, dans une interview que demain, on serait peut-être capable, en fait, donc, d'aller dans l'espace. Est-ce qu'il y a des projets sur les avions du futur Airbus dont on peut éventuellement parler? Est-ce qu'on projette de construire des avions qui, un jour, nous permettront d'aller faire des séjours dans l'espace, ou est-ce que c'est hors champ pour,
eu,
pour une entreprise comme Airbus?
Un projet, non, il y a eu un projet qui a été officiel, pour l'instant qui est arrêté, d'un avion dont la vertu était de pouvoir passer les 100 km. Vous savez que les 100 km d'altitude, c'est ce qui vous permet de passer au-delà de l'atmosphère, c'est ce qui vous permet de voir le ciel sombre, et de faire une cloche, une parabole, donc une apesanteur pour une dizaine de minutes. Donc ça a été un projet qui n'a pas abouti. Un petit peu à l'identique de ce qu'on voit aux États-Unis aujourd'hui, avec l'idée d'offrir au plus grand nombre l'accès au vol spatial. Alors, au plus grand nombre, non, parce que ce sera de toute façon des vols très chers. Donc, ce sera réservé à des gens qui ont les moyens, malheureusement, et ça je le déplore, des moyens de se payer cette aventure.
Pour finir donc cette première partie, est-ce que vous pouvez nous dire sur quel type de projet vous travaillez en ce moment?
Alors, moi je travaille sur les commandes de vol, j'ai une passion, c'est le pilotage, et donc naturellement je suis venu à travailler la capacité qu'on peut avoir à piloter facilement ou pas un avion qui va peser plusieurs tonnes, qui est dans les conditions les plus difficiles qu'un pilote de ligne puisse rencontrer, la turbulence, le vent travers, et c'est une obsession bien sûr aux essais en vol, de donner le meilleur de ce que la technologie peut donner aujourd'hui à nos camarades pilotes de ligne, pour qu'ils puissent évoluer en toute facilité dans un monde qui parfois ne l'est pas. Ça peut être difficile de piloter un avion.
On va faire une première pause et vous laissez certainement reconnaître la musique qui ne surprendra pas grand monde. Et on vous retrouve tout de suite après pour parler de votre sortie dans l'espace, mais peut-être un peu différemment de ce que vous avez eu l'habitude de dire dans les médias. On va essayer de s'attacher à ce que vous avez vécu, surtout de l'intérieur. Et enfin, à la fin de cette émission, comme de temps en temps avec des invités comme vous, un peu exceptionnels, ou en tout cas qui ont des parcours de vie singuliers, je vous demanderai donc quel sens la vie a pour vous, ce que vous pensez de Jésus et quel est votre regard sur l'Église. Philippe Perrin, l'astronaute toulousain, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec donc l'homme du même nom, pilote d'essai chez Airbus et 9e astronaute français à être allé dans l'espace, donc pour l'agence spatiale française. De votre expérience dans l'espace, vous parlez, je n'ai jamais eu que quelques heures de préparation, donc vous me corrigerez si c'est pas tout à fait juste. Vous parlez évidemment de votre séjour à l'intérieur de la station, mais souvent donc des sorties extra-véhiculaires, comme on dit. Trois sorties, pour rappel, on l'a dit au début de cette émission. Vous racontez aussi dans les interviews qu'on peut sortir soit par la tête, soit par les pieds, qu'en l'occurrence, vous, ça a été par les pieds. Donc, on est sur un plongeoir 400 km au-dessus de la Terre. Et vous dites à propos de cette expérience, tour à tour, que c'est le nirvana, ou vous utilisez une expression peut-être plus chrétienne, une forme de béatitude. Est-ce que vous pouvez commencer par peut-être expliquer ou partager ce que
oui,
vous mettez derrière ce mot?
Oui, je peux envoyer aux auditeurs sur mon site internet, parce qu'il y aura des photos qui montrent effectivement une béatitude. Et j'ai toujours utilisé béatitude. Et je m'étonnais de voir d'autres astronautes utiliser d'autres qualificatifs. Et effectivement, on pourrait parler de nirvana, mais moi, c'était une béatitude. Alors, quand vous m'avez posé cette question par écrit, j'y ai réfléchi, je me suis dit, bah oui, c'est pas un hasard. Alors, c'est pas, peut-être pas une béatitude au sens purement biblique du serment de la montagne, mais c'est une béatitude parce que je me suis senti en harmonie avec le monde. Et je crois que c'est encore une fois prétentieux de dire ça, mais c'est vraiment ce que je ressentais. Alors, il faut imaginer la carrière d'un astronaute, hein, c'est comme une ascension, on gravit une montagne, et le vol arrive, et on arrive là, on est en position d'observateur, en liberté complète, en absence de pesanteur. Et on a cette vue unique sur notre planète et toute la vie qui habite cette planète.
Comment est-ce qu'on est physiquement à ce moment-là? C'est-à-dire qu'en fait,
alors, c'est un mélange,
le scaphandre est très lourd.
C'est un mélange de peine physique. Et c'est pour ça peut-être qu'on pourrait retrouver les béatitudes bibliques. C'est-à-dire qu'on souffre dans son corps, on souffre dans ses articulations. C'est extrêmement douloureux, extrêmement physique. On n'en parle pas souvent, c'est un peu un tabou, parce qu'à la NASA, il faut que l'homme soit fort. Donc on ne parle pas de ses souffrances. Il y avoir des peurs qu'on essaye peut-être d'inhiber, mais et puis il y a cette capacité encore une fois à voir cette terre. Et je dis souvent qu'il y a savoir les choses et les faire siennes, c'est-à-dire qu'on a beau savoir que la terre est ronde et qu'elle est perdue au milieu de nulle part, le fait de le voir une fois qu'on est sorti de la station, c'est le faire sien, c'est le faire avec ses tripes, et on prend conscience mais pleine de la réalité de cette chose perdue dans l'immensité du cosmos. Ça peut à la fois être inquiétant, on peut en parler quant à la fragilité de ce qu'on voit, et en même temps, c'est extrêmement beau. Donc c'est une espèce d'extase. Pour moi, c'était une extase. J'étais arrivé au sommet de ma vie, et alors de façon assez triste, tout aurait pu s'arrêter là. C'est-à-dire que j'avais gravi toutes les marches que je voulais gravir, et ma vie aurait pu s'arrêter là. Et quelque part, eh bien, c'est la famille qui me fait rentrer, et l'envie de rentrer, c'est le besoin de tout reconstruire. J'ai un souvenir très très précis de ma dernière sortie extraviculaire. Trois dans un vol, c'est exceptionnel, donc j'étais dans un état de fatigue terrible, et je voyais donc le sas pour revenir dans la station, qui était comme un îlot de lumière, et je me battais comme un beau diable pour revenir, j'étais épuisé.
Racontez peut-être le contexte du coup de votre troisième sortie.
La troisième sortie a été quelque part improvisée, le bras robotique est tombé en panne quelques mois avant mon vol. On a improvisé une sortie de la dernière chance qui était physiquement pas possible, qui passait pas dans les temps, il a fallu qu'on se précipite, on a tout donné, et on a réussi à sauver le bras. Et à la fin de cette sortie, j'étais donc encore une fois dans un état d'épuisement total, et alors je me disais, mais il faut revenir pour la famille. Mais sinon, mon impression générale était effectivement l'impression d'une grande béatitude, d'une grande harmonie. Tout ce que je connaissais, tout ce que j'aimais, était là, je pouvais presque physiquement le prendre sous le bras, cette terre était là, qui tenait au milieu de nulle part, et j'étais juste bien.
Est-ce que c'est une expérience que vous avez pu partager parfois avec d'autres astronautes? J'ai lu aussi qu'avant de partir dans l'espace, vous aviez posé la question, ça m'a fait sourire, à un astronaute américain et un astronaute russe de savoir ce qu'ils avaient ressenti en haut. Et alors, les deux réponses ont peut-être été un peu caricaturales, mais est-ce que vous pouvez les dire?
Oui, parce que, encore une fois, ça reste une expérience humaine, donc elle est empreinte de culture, de vécu. Et c'était ce dont je me souviens, c'était pendant le vol. Je posais la question à un camarade américain, je disais, mais c'est beau, n'est-ce pas? Il me disait, oui, ça ressemble à un atlas de géographie. Pour lui, bon, bah, il voyait les choses d'un peu plus haut, c'était comme un vol, mais... Et puis il y avait le russe, au contraire, qui me disait, oui, c'est merveilleux, je vais rester 6 mois là et je vais passer mon temps à voir la Terre. Et on voyait qu'il y avait une civilisation qui était dans la maîtrise de la technologie, et puis il y avait une civilisation russe qui était plutôt dans le vécu, dans l'âme. Dans la profondeur d'âme.
J'ai même lu que le russe, vous avez répondu, j'ai pleuré.
Oui, c'est ça. Et alors c'était vrai, par exemple, des musiques que les gens écoutaient. Je me souviens, parce qu'on écoute beaucoup de musique dans l'espace, c'est la seule façon qu'on ait de s'isoler des autres. Et alors l'Américain écoutait du country, bon, et moi j'écoutais à l'époque un peu de musique pop. Et le russe écoutait des opéras russes, et pour le coup, il pleurait en écoutant ces opéras russes. Donc c'est une expérience humaine. C'est un peu comme une expérience d'un explorateur qui va au bout du monde pour mieux se connaître. On va toujours très loin, finalement, pour aussi se découvrir soi-même.
Alors j'aimerais qu'on parle d'autre chose. Je ne vous force pas la main, puisque je l'ai lu donc, dans une interview, toujours cette interview au journal Le Monde, c'est la plus longue interview que j'ai trouvée. Vous dites que quand on est là-haut, comme vous l'avez été pendant 14 jours, et a fortiori quand on sort de la station spatiale internationale, on pense à la mort. Vous dites même, alors vous avez l'air de dire que pour vous c'était probablement un peu une vision de l'esprit, mais qu'un jour vous avez vu une aurore boréale. Il y a beaucoup d'aurores boréales, enfin on voit beaucoup d'aurores boréales depuis la station internationale, et vous en avez vu une qui ressemblait à une forme de mort.
Ouais. J'ai une vision très étrange, très très étrange. Alors je crois que la mort, d'abord, on n'en parle pas, parce que c'est le grand tabou, parce que le métier est très risqué, vous avez une chance sur 100 de ne pas revenir. Donc
une chance sur 100 quand même, oui.
Bah, si on prend les statistiques de la NASA, je dirais presque que c'est 2 chances sur 100 de vol de ne pas revenir. Et donc c'est le grand tabou, donc on ne parle jamais du risque. C'est une façon de l'évacuer. Et comme on évacue finalement assez mal, c'est quelque chose qui reste dans le fond de votre pensée. Et alors en sortie extraviculaire, à un moment je voyais des aurores australes, donc c'était comme boréales, mais elles sont au sud de l'Australie. Je me suis retourné, j'étais pris par la magie de ce que je voyais. Et soudain, comme on peut interpréter des formes dans les nuages quand on est passager d'un avion, eh bien les aurores boréales ont pris une forme et ça a été une tête de mort. Et j'étais pris d'effroi. Alors je pense que c'était mon corps qui quelque part avait enfoui toutes ces angoisses et puis qu'il est restitué comme ça. Comme par exemple, j'ai pu restituer des choses après mon vol. J'ai été sujet à de la claustrophobie au retour de mon vol sur Terre. Moi qui n'avais jamais été claustrophobe, j'ai fait de la plongée sous-marine dans des grottes en passant la bouteille d'abord, en décaplant un bras, l'autre, etc. J'ai jamais eu peur de rien. En rentrant de mon vol, un jour j'ai dû aller chercher quelque chose sous un lit. J'étais physiquement incapable d'aller sous le lit, je manquais d'air. Parce que dans le scaphandre, bien sûr, j'étais contraint et l'air m'était amené de façon complètement artificielle. Et donc on enfouit ses peurs, on enfouit et elles refont surface naturellement.
Dans une interview, un autre journal s'appelle Boudu, vous
journal dites, toulousain.
Journal toulousain, en effet. Vous faites une remarque. Je me permets de la faire parce que donc je l'ai lu. Vous regrettez en fait que parfois la manière dont les astronautes parlent de leur expérience dans l'espace est assez formatée, aseptisée. Ne fait pas place justement à l'expérience spirituelle, voire métaphysique, ou donc profonde, que font les astronautes. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Parce que ça a un rapport un peu avec peut-être cette question de la mort.
Ben, je crois d'abord que ce sont des choses personnelles, et on ne peut pas demander aux gens de parler dans les médias d'expériences personnelles.
C'est sûr, oui.
C'est la richesse qu'on a quand on se retrouve entre astronautes, parce que finalement on va à l'essentiel. Après, il y a des différences culturelles qui font que les gens ne vivent pas les expériences de la même façon. Mais il y a aussi cette habitude, et surtout à l'agence spatiale américaine, à la NASA, de cacher la vérité parce qu'il faut que la NASA soit forte, que l'homme soit fort dans son scaphandre. Il est musclé, il est fort, il ne souffre pas, il ne transpire pas, il n'a pas peur. Et il fait le job, comme on dit en américain. You do the job. Je crois que c'est très différent pour les astronautes européens, qui ont tous, pour ce que j'en connais, toujours véhiculé des choses très personnelles.
Mais alors, entre autres, il y a une chose qui m'a marqué dans ce que j'ai pu lire de ce que vous racontez de cette sortie extra-véhiculaire, c'est quand vous dites que vous avez regardé la Terre et vous êtes rendu compte que voilà, c'est un petit lieu de vie, c'est comme un satellite, en fait, extraordinaire.
Alors voilà.
Et que quand on tourne la tête de l'autre côté, c'est tout noir et c'est le vide. Est-ce que vous pouvez raconter ça?
C'est pour revenir, oui, à mon expérience d'enfant. Je voulais savoir ce que j'allais apprendre du cosmos. Et finalement, bon, on est en orbite autour de la Terre. Et ce qu'on voit, c'est la Terre. Et c'est ce contraste saisissant entre un ciel noir. Et on a beau savoir que le ciel est noir au-delà de la couche d'atmosphère, bien ce ciel noir, il est extrêmement austère. Et puis la Terre est extrêmement lumineuse. Et elle est belle de lumière. Elle est baignée de lumière.
Austère et dangereux.
Dangereux. On réagit avec, encore une fois, l'instinct qu'on a développé sur Terre. Donc, ce qui est noir, c'est la nuit. La nuit, c'est inquiétant. La lumière, c'est la vie. dans le message biblique, ça l'est, et ça, pour moi, c'est évident. La lumière, c'est la vie. Et on le sent encore une fois avec ses tripes.
Du coup, me vient une question. Alors, c'est, pour moi, c'est un peu la question centrale. Alors, on a l'impression, à vous entendre, et justement, au contraire de ce qu'on peut lire ou de ce que peut renvoyer certains astronautes, que, en fait, le fond de votre expérience, ça a été la découverte, en fait, d'une forme de fragilité. Alors, pardon, je veux pas faire une psychanalyse, hein, donc vous répondez pas si ça, si ça vous gêne.
Mais, rien ne me gêne.
Mais on a l'impression qu'aussi, quelque part, c'est aussi ce qu'aujourd'hui vous essayez de transmettre en allant souvent dans les écoles. Vous avez à ce moment-là, en fait, comme en regardant de haut, pris conscience peut-être de votre fragilité, et ou à tout le moins, ce qui peut vous permettre d'échapper à la question, à la fragilité de la Terre.
Sa propre fragilité, bien évidemment. Et puis on est à l'apogée d'une carrière, donc on sait que derrière la carrière va dégringoler, donc c'est sa propre déchéance qui suit une aventure pareille. Mais c'est surtout donc la fragilité de la Terre. Alors, c'est souvent ce que disent les astronautes, et c'est parfois mal compris. Je voudrais essayer de bien le véhiculer. Bon, cette atmosphère, elle est extrêmement ténue. Et puis, la Terre est ronde, et donc elle a une dimension très finie. Au quotidien, vous vivez comme si la Terre était plate, avec des ressources infinies. Et on a beau nous dire depuis un certain nombre d'années qu'on a des ressources limitées, dans nos comportements quotidiens, on ne prend jamais cette idée en compte. Quand on est soi-même astronaute, on survit dans une capsule, dans un scaphandre. On a tout en conditionnement limité. L'air qu'on respire, l'eau qu'on va boire. Et donc on est extrêmement conscient. Quand je suis rentré sur Terre, il nous restait 2 jours de ressources. Si on n'était pas capable de rentrer, d'activer les moteurs de déorbitation, on avait 2 jours de réserve. Donc on est très sensible au côté limité des ressources qui nous permettent de vivre. Et alors, ça me fait penser au film Gravity. L'actrice arrive sur Terre, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle prend une bouffée d'air. Et c'est vraiment l'impression qu'on a, c'est qu'on arrive sur Terre, on ouvre, et là on respire. Et il y a pléthore d'air, il y a pléthore de lumière, il y a des arbres, et il y a des gens, et c'est merveilleux. Et donc on retrouve la beauté de la vie terrestre pour en avoir été privé.
Vous dites aujourd'hui que c'est votre combat maintenant, cette prise de conscience écologique. Voilà, on serait rentré dans une troisième phase, troisième révolution, je ne sais pas si elle est industrielle, qui serait la révolution environnementale. Et vous avez des mots assez durs. Alors vous me direz, ça ne surprend, enfin comment dire, les auditeurs n'en seront pas choqués parce que le pape François est aussi très, très vert sur ce sujet, même s'il n'utilise pas les mêmes termes que vous. Vous dites entre autres dans
J'ai
une
plus
interview,
de liberté.
Nous resterons comme une génération de salauds qui ne laisse rien aux générations futures. Est-ce que vous pouvez commenter cette phrase?
En 6 générations, on a déjà consommé la moitié des ressources d'énergie fossile. On a pollué, et nous particulièrement les pays riches, la planète dans laquelle vivent des gens qui n'avaient rien demandé. Et ça, c'est ce que le pape François explique très très bien dans le Laudato Si, son texte sur l'environnement, qui explique que le premier problème de l'environnement, c'est un problème de riches. Ce sont des gens très riches et peu de gens qui ont mis à mal une planète où vivent d'autres gens. Et ça, c'est effectivement, c'est un geste de salaud, oui, bien sûr. Et je pense que le mot n'est pas encore trouvé. Mais quand on reprendra l'histoire de cette époque de l'humanité, il y aura effectivement un adjectif pour qualifier nos générations. Et ce sera un adjectif extrêmement dur.
Est-ce que vous pouvez parler du combat qui est le vôtre maintenant sur l'environnement? Vous êtes présenté à deux reprises, je crois, sur des listes dont...
J'étais suppléant, c'est-à-dire que je me suis toujours présenté comme suppléant derrière des femmes que je voulais faire gagner. Donc mon amie Christine de Vérac et mon amie Laurence Massat, et donc dans un centre...
De liste écologique à chaque fois ou...
Non, c'était du centre droit, UDI... Ça a toujours été ma fibre. Je ne me sens pas ni de droite ni de gauche. Et c'est pour ça que j'ai envoyé ma candidature à La République En Marche, qui la prendra ou pas.
Pour les prochaines élections européennes.
Pour les prochaines élections européennes.
Voilà, avec donc à cœur de défendre la question écologique au cœur du Parlement européen. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus du coup sur le combat que vous aimeriez mener sur ce sujet?
C'est un combat pragmatique, c'est-à-dire que là aujourd'hui je viens de l'industrie, j'ai passé 15 ans dans l'industrie. Ce qui m'intéresse, ce sont les solutions qu'on a passées. Je crois que tous les grands défenseurs de l'écologie le disent aujourd'hui mieux que moi. On a passé la phase d'alerte. Maintenant, il faut trouver des solutions. Donc, il faut créer l'Airbus de l'environnement, c'est-à-dire développer les technologies dont on a besoin au niveau européen, trouver des synergies, créer des emplois, mais il faut le faire. Et je pense que l'Europe est la bonne structure d'accueil.
Quelle était votre réaction, par exemple, au départ de Nicolas Hulot? Est-ce que vous avez un sentiment à partager sur ce sujet, cet homme?
Moi, je suis un inconditionnel de Nicolas Hulot. Il a cette urgence climatique, lui aussi, dans les tripes. Encore une fois, c'est toute la différence entre savoir qu'on va dans le mur et l'avoir fait sien. Je suis frappé, des fois, au journal télévisé, d'entendre une nouvelle glaçante sur l'augmentation de la température dans les Pyrénées dans les 50 prochaines années, et on passe à autre chose, mais dans la seconde, c'est le format qu'il impose. Non, il faudrait s'arrêter, peut-être prier, et puis avancer. Donc Nicolas Hulot, il est dans la vérité de l'émotion et de la prise de conscience. C'est quelqu'un que je respecte énormément, oui.
Est-ce que vous avez encore quelque espoir sur un sujet pareil? On imagine que oui, sinon vous ne présenteriez pas aux élections européennes.
J'ai beaucoup d'espoir pour
sujet.
Avoir lu notamment les livres que je recommande de M. Lebeau, qui a été directeur du CNES, qui est décédé malheureusement, et qui a très vite compris que l'homme ne réagirait que quand il sera au pied du mur. L'histoire de l'humanité le prouve systématiquement. C'est malheureux. Mais au moment où on sera au pied du mur, il faudra des changements radicaux. Et il faudra les mettre en place, c'est ce qui va se passer. C'est un peu comme une guerre, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans une zone d'ombre, une zone difficile, où on aura une difficulté à alimenter la population, des effets de l'environnement sur les plantations, etc. Et donc on sera dans quelque chose, dans une réponse urgente, il faut l'anticiper.
Et vous pensez qu'on y est ou qu'on...
Oui, très près, très très près.
On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver donc pour ces questions encore plus personnelles. Merci en tout cas d'avoir eu la simplicité d'accepter donc sur le sens que la vie a pour vous et peut-être votre regard sur le Christ ou sur l'Église.
Emmanuel Pella.
Philippe Perrin, l'astronaute toulousain, c'est donc pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, donc avec, avec lui-même, Philippe Perrin en plateau, pilote d'essai pour rappel pour ceux qui nous rejoindraient chez Airbus, et donc 9e astronaute français à être allé dans l'espace. Chose promise, chose due, quelques questions plus philosophiques encore, même si le ton l'était déjà un petit peu. J'aimerais quand même rebondir sur ce qu'on se partageait pendant la pause. Je vous disais, alors pardon, normalement on ne parle pas de soi dans une émission, mais que c'est vrai que c'est très frappant de vous entendre parler de ce regard que vous portiez sur la Terre, comme de voir un miracle de la vie au milieu d'une immensité infinie noire. Évidemment, quel commentaire peut-être supplémentaire ça apporterait ? Il y a quelque chose d'assez incongru, en fait.
Oui, mais pour moi, ça a été une source de bonheur. J'aimerais la retrouver, parce que j'ai eu au moment du vol, peut-être pas une révélation, mais en tout cas un grand bonheur, qui était de comprendre que la vie était belle, et que ça me suffisait finalement, je pouvais disparaître. Le monde était là, il était beau, et moi j'étais dans ce monde, mais je pouvais être à l'extérieur, il restait beau. Voilà, ça a été ma révélation. C'était une sensation finalement heureuse, puisque ce que je découvrais ne dépendait pas de moi. J'étais en dehors de ce monde, physiquement en dehors, et psychologiquement en dehors du monde.
Moi, ça m'a fait penser, alors pardon, c'est peut-être une manière d'introduire le propos suivant, je saute peut-être une étape, je me suis dit, la Terre, c'est comme une forme de... c'est comme une crèche dans l'univers, en fait. La crèche, c'est vu pour les chrétiens comme le symbole de la fragilité, de la vie...
Oui, est-ce que c'est le début d'une grande aventure ? Est-ce que c'est... certains le pensent, le seul lieu de la vie ? Moi, je pense qu'on peut découvrir d'autres lieux de vie dans l'univers. Mais ça, ça peut être lié à une position et lié à la foi. Mais en tout cas, et c'est ma conscience écologique, mais elle est tellement simple. La vie est belle, et l'homme n'est que de passage. Si vous me posez la question de savoir finalement ce que m'a apporté ce vol dans l'espace, c'est qu'on est un témoin et on passe dans quelque chose qui nous dépasse. Voilà. On est dans un processus d'évolution. Moi, je suis très sensible à la parole, par exemple, du frère jésuite Teilhard de Chardin. On est, à un moment donné, un petit échelon d'une vie qui va croître. L'homme est dans une situation aujourd'hui, mais il sera dans une autre situation. Il va lui-même physiquement évoluer. L'évolution continue. Et on n'est qu'un petit maillon de cette vie qui nous dépasse.
Donc, on est très fragile, mais quelque part, la puissance de la vie est là. C'est à vous entendre.
Puissance de la vie est là. C'est pas tellement que peut-être la vie est fragile, mais l'homme est en position de force. Et donc, c'est ce qu'on a défini maintenant avec cette notion intéressante d'anthropocène. Donc, on rentre dans un nouvel ère géologique où l'homme, finalement, a une capacité de faire évoluer le monde et peut-être de le détruire. Et dans ce que nous dit Teilhard de Chardin, l'homme est particulier parce qu'il est en position de responsabilité. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de comprendre que l'homme est à la fois puissant et qu'il est responsable. Donc, on est à un tournant de l'évolution de la vie. Dans l'évolution de la vie, l'homme est apparu et donc est en situation maintenant de changer les choses pour le meilleur ou pour le pire. Et donc on est à une rupture et on est à un moment clé de l'évolution, je dirais pas de l'humanité, de la vie.
Philippe Perrin, quel est le sens de la vie pour vous ? C'est la question que je pose un petit peu, enfin que je pose de temps en temps aux invités dans cette émission sur un format un peu particulier ou un ton un peu particulier. Je leur dis, qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin ? Alors quelle réponse vous apporteriez à cela ? Question un peu vague, mais je vous avais préparé.
Avec toujours beaucoup de bonheur parce que j'ai cette béatitude qui me poursuit, c'est-à-dire que je suis capable de profiter d'un rayon de soleil et de la beauté simplement du monde. Donc j'ai un naturel très, très heureux, très optimiste. Ce que je disais juste avant, c'est une façon de répondre à votre question. Je me vois comme un maillon. Je vois en fait la vie comme une course de relais où on se passe le relais d'une génération à une autre. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est le relais que je passe à mes enfants, à d'autres enfants qui ne sont pas les miens, que je peux parrainer, que je peux aider, etc. Et donc on est à un moment donné le maillon de quelque chose qui nous dépasse. On prend et on donne.
Si on en vient à la question de la foi, je vous disais ou je vous suggérais, au regard peut-être de ce regard que vous avez pu poser sur la terre, qui est quand même très particulier, cette expression de Christian Bobin, donc auteur relativement connu, qui a un ouvrage pour parler de Jésus, du Christ, qui s'appelle Le Très-Bas. Je ne sais pas qui est Jésus pour vous.
Très personnel, hein.
Je me permets de vous poser la question
non,
je vous avais prévenu, hein, sinon je...
Non, mais je vous en prie, non, mais je vais vous dire peut-être une réponse
étrange. C'est pas un interrogatoire.
Non, pour moi, c'est un ami. C'est un ami avec qui j'aime discuter. Et vous parlez de la foi, et je suis sensible au mystère de la foi, puisque j'ai eu une foi, mais farouche, évidente comme elle peut l'être, et je l'ai perdue. Aujourd'hui, je suis en train de la retrouver. Enfin, je voudrais la retrouver. Et je l'ai eue de façon évidente. Et pour moi, il était évident que je pouvais discuter avec Jésus, en tout cas lui demander conseil. C'était tellement évident. Et pour moi, il est tellement triste aujourd'hui de l'avoir perdu. Et je ne sais pas pourquoi.
Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est, du coup, quand vous faites mémoire, que d'avoir cet ami invisible pour tous ceux qui justement, aujourd'hui, sont un peu dans votre situation actuelle, en tout cas, que vous décrivez. Je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent et qui aimeraient, en fait, rencontrer le Christ, l'avoir pour ami, même si on fait venir souvent à ce plateau des gens...
C'est tout le mystère de la foi, c'est que... je pense que dans mon cas... J'ai énormément travaillé, j'ai tout donné pour quelque chose qui me dépassait. Et donc, quelque part, je me suis oublié. Et je pense que de m'être oublié, quelque part, je me suis un peu dépouillé. Et en me dépouillant, peut-être que j'ai trouvé des choses qui étaient très fortes. Et peut-être qu'avec le temps, eh bien, je me suis moins dépouillé. Peut-être que je me suis enrichi et peut-être mal enrichi. Et peut-être qu'il est temps pour moi d'apprendre à me dépouiller à nouveau.
Et qu'est-ce que ça fait quand on a un ami comme ça, qu'on ne voit pas, à qui on peut parler, en fait? On a un rapport à la vie qui est fondamentalement différent.
Parce que l'expérience que j'en ai eue, encore une fois, c'est un grand bonheur. C'est une force sur laquelle on s'appuie. C'est une évidence. C'est une évidence. Et quand on perd cette foi, c'est une grande douleur. Parce qu'il n'y a plus, y a plus cette évidence.
Pourtant, à vous entendre, même si peut-être la nuit s'est faite dans votre cœur ou dans votre foi, vous avez l'air d'avoir un rapport à la mort. C'est vrai que l'autre grande question à laquelle répond peut-être le christianisme, ou en tout cas que vient poser la question de la résurrection de Jésus...
C'est la question. Pour moi, il était évident que
Jésus... C'est la question de la mort,
oui. Oui, pour moi, il était évident... Que Jésus était ressuscité, c'était bien l'évidence, et c'est bien la foi, on parle bien de la même chose. Aujourd'hui, la mort, je n'y pense pas, je ne pense pas qu'elle me fasse peur, puisque j'ai passé ma vie à la défier, donc je l'ignore et elle ne m'intéresse pas.
Vous pensez que la puissance de la vie est plus forte quelque part que la mort, en tout cas?
Plus forte, oui, bien sûr.
Pour finir, à moins que vous vouliez partager d'autres choses sur ce sujet, et on y reviendra peut-être du coup indirectement, quel est votre regard aujourd'hui sur l'Église? Parce que peut-être d'être un petit peu un pied au dehors, même si vous avez probablement un pied dedans aussi, puisque vous cherchez, ça vous donne peut-être une plus grande liberté de ton. Quel regard vous avez sur l'Église? Quel est votre sentiment pour celle que vous connaissez ou celle dont vous entendez parler?
Mon épouse... et croyante, pratiquante, et c'est une personne très forte, donc je m'appuie sur sa propre force. Je suis très sensible au message de notre pape François.
Pourquoi? Est-ce que vous pourriez dire?
Notamment
plus
sur
que les précédents ou autrement.
Sur cette capacité qu'il a à se dépouiller, à s'intéresser aux pauvres. Et à critiquer peut-être le système actuel, celui de la finance. Je crois qu'on est au cœur du sujet. Et un modèle qui enrichit les portefeuilles, mais qui n'enrichit pas les âmes et qui n'enrichit pas les pauvres. Et donc, si l'Église est un hôpital de campagne, elle a du travail. Elle est autre chose, bien sûr. Hein, elle porte le message du Christ, mais en premier lieu, elle doit s'occuper des plus pauvres. Et c'est vrai que ce soit la crise sociale, la crise économique, le modèle économique courant, on est dans une impasse. Et moi, c'est quelque chose qui me soucie et c'est peut-être ce sur quoi j'aimerais le plus travailler.
Est-ce qu'il y a des choses qui vous gênent dans l'Église ? Vous pouvez vous exprimer en toute liberté, des choses qui vous agacent, des choses
qui vous... Je suis un mélange.
Le pape François est le premier à être parfois très virulent à l'égard
De réforme de l'Église. Et la famille de mon père était protestante, la famille de ma mère est catholique, mais mon épouse est catholique. Et donc je suis ouvert à l'idée de la réforme, je suis pour le mariage des prêtres. Fondamentalement pour le mariage des prêtres.
Est-ce que vous pourriez dire pourquoi ? Ça vous semble du coup...
Parce que je ne pense pas que le célibat soit nécessaire. Enfin, encore une fois, je suis mal placé pour répondre. Je ne suis pas dans cette problématique moi-même. Mais bon, je fais l'expérience du mariage et je connais la force des liens du mariage et l'énergie que ça m'a donné. Je vais vous donner une anecdote. J'ai rencontré Neil Armstrong une fois. Et ce qu'il m'a dit, c'est... Ce qui fait un astronaute, c'est pas l'astronaute, c'est son épouse.
C'est ce qu'on dit. On dit derrière que tout grand homme, il y a une grande femme.
En tout cas, c'est ce que disait Neil Armstrong.
Est-ce à dire que vous avez jamais rencontré, par exemple, de personnes consacrées qui étaient profondément rayonnantes et vous sentez qu'elles vivaient d'un amour secret ?
Mais bien sûr. Et je pense que ça pourrait peut-être attirer plus. Plus de volontaires, ça pourrait... Moi, c'est un avis personnel, j'ai pas envie ni de choquer qui que ce soit, ni de le partager, ni de le défendre. En tout cas, vous m'avez posé une question et je tenais à y répondre avec beaucoup de franchise.
Pour finir, j'aurais peut-être une dernière question. C'est toujours un peu le regard sur l'Église. Le pape François, alors j'espère ne pas être trop maladroit ou trop imprécis, mais j'ai cru comprendre qu'à la faveur de son élection, il y a des rencontres préliminaires entre cardinaux et il s'exprime avec liberté. Et le pape François avait eu une intervention où il laissait entendre, enfin il avait eu, semble-t-il, il avait utilisé l'image suivante, disant que Jésus était comme, le Christ était comme enfermé à l'intérieur de l'Église et qu'il n'avait qu'une hâte, c'était de sortir, et qu'il fallait laisser sortir le Christ de l'Église, que parfois, nous les chrétiens ou les catholiques, on faisait un peu obstacle dans le fond à ce que la miséricorde de Dieu vienne jusqu'aux périphéries, comme dit le pape François. Est-ce que c'est une image qui vous parle ? Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler ?
C'est une image qui me parle. Le pape François, comme tous les latins, est révolutionnaire. Oui, il faut que le message aille et rayonne vers les gens divorcés, vers les gens homosexuels. Moi, j'ai passé 6 ans de ma vie aux États-Unis, donc je suis allé dans des cultes américains, je ne sais pas si on les appelle baptistes ou...
Évangéliques.
Et c'est différent et ça m'a plu. Et ça m'a plu, je pense qu'il faut évoluer. Alors, le dogme a eu cette vertu de garder quelque chose d'intègre à travers des siècles difficiles. L'Église a passé des moments effroyables, donc je crois que le dogme a été important et j'espère qu'on a la liberté de le faire évoluer.
Eh ben, merci beaucoup Philippe Perrin d'être venu au micro de Vivante Église. Merci pour la simplicité de vos propos. Vous qui en général êtes avare d'interviews, on a de la chance. Vous avez fait, je pense, un beau cadeau aux auditeurs. Qu'il vous soit rendu. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.